Bienvenue dans l'aventure J'aimerais vous lire, un appel à texte lancé par la compagnie Actemo Théâtre. Vous écoutez Journal de bord et vins écrits, un podcast réalisé par Johanna Schwartz. Premier épisode, la vie d'artiste, sinon rien. Waouh. Alors, journal de bord. Ok. Salut toi. Ou plutôt, salut moi. Alors, tu l'entends certainement à ma voix, mais je suis encore un tout petit peu dans le brouillard de ma soirée du Nouvel An. On est le 1er janvier 2023. Et waouh, quelle belle soirée. J'étais avec tous mes amis et en plus avec ma sœur. Bref, tous les gens que j'aime rassemblés pour bien commencer l'année. C'est beau. Mais bon, je suis pas là pour te parler de mon Nouvel An. Parce qu'à vrai dire, je pense qu'on s'en fiche un peu. Je suis là pour garder une sorte de trace des bonnes résolutions que j'ai décidé de prendre cette année et de mon cheminement en tant qu'artiste. Mais t'inquiète, je vais t'expliquer tout ça. Bon, déjà, vie professionnelle va toujours de pair, qu'on le veuille ou non, avec vie relationnelle. Alors, niveau relations humaines, je me suis plutôt pas mal débrouillée hein, pour commencer l'année. Je me suis entourée de tous les gens que j'aimais, ce sont des gens sains, j'ai des relations saines. Alors maintenant, il me reste plus qu'à tout mettre en œuvre pour réussir ma vie professionnelle, c'est-à-dire me battre pour être payée à faire les choses que j'aime. C'est très important pour moi, et bah faut dire que j'ai pas choisi la route la plus directe pour arriver à mes fins. Mais bon, je te dresse un portrait rapide. Moi, c'est Johanna, et tout le monde m'appelle Jo. J'ai 23 ans et ma passion, c'est l'écriture. L'écriture m'a été tout simplement vitale pendant une période de ma vie. C'était après ma licence. Je revenais d'un Erasmus. Et autant te dire que ça faisait déjà quelques années que je sentais que le système scolaire français tel que je l'ai connu n'était clairement pas fait pour moi. J'avais aucune envie d'enchaîner directement avec un master comme il est de coutume en France. Je voulais prendre une année pour tâter la vraie vie, la vie professionnelle. Hors de toutes ces théories et de cette académie trop stricte et trop bridée à mon goût. Alors j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai déménagé à Strasbourg pour faire un service civique dans une radio au joli nom de Radio Arc-en-Ciel. Et c'est là que j'ai découvert que mon écriture pouvait prendre autant de formes que je pouvais en imaginer. Que ce soit l'écriture d'un podcast, d'un conte, d'un poème ou d'une interview, je découvrais alors qu'il n'y avait pas qu'en devenant autrice de romans que je pouvais écrire pour vivre. Et ça, ça a totalement changé ma vision de l'écriture. Mais cette année-là, elle a été marquée par la pandémie de Covid-19 qui nous a presque tous et toutes confinés. Et je me souviens que pour moi, comme pour 100% de la population, ça a été très dur à vivre. Alors bah, je m'échappais par les mots. J'écrivais tout le temps, sur tous les sujets. Je goûtais à ce seul petit espace de liberté qui semblait me rester. J'ai compris alors que je ne pourrais rien faire d'autre comme métier. J'écrirai ou rien. Ça fait maintenant 2 ans que je gagne ma vie en travaillant dans la restauration et que parallèlement, je m'exerce encore et encore à perfectionner mon écriture, histoire de me bâtir à un niveau que je considérerais comme solide. Mais en fait, plus j'écris, plus je me rends compte que ce moment, il arrivera sûrement jamais en fait. Je suis prête à livrer ce que j'ai écrit au monde et à l'exposer. C'est pour ça qu'en cette première journée de l'année 2023, j'ai pris une bonne résolution. L'année 2023, ce sera l'année de mon éclosion artistique. Plus de barrières, plus de « non, mais j'ai pas le temps de faire ça, nanana ». Cette année, on dit oui à tout. Ma bonne résolution, c'est de participer au moins à un appel à texte ou concours d'écriture en tout genre, par mois. Et justement, je me souviens qu'il y a quelques semaines, j'ai vu passer une petite annonce sur les réseaux. Un appel à texte qui portait le doux nom de « J'aimerais vous lire ». C'était si simple et si gentiment dit que j'ai pas pu résister. Je me suis dit qu'il servait à rien que mes mots prennent la poussière. J'ai des tonnes de textes en réserve, dans mon ordinateur, dans mes carnets, dans ma tête, mais surtout dans mon cœur. Bon, là, on est mi-janvier 2023 et je vous cache pas ma perplexité, en fait. J'ai épluché le descriptif de l'appel à texte « J'aimerais vous lire » et je trouve aucun thème. J'ai pas l'habitude. Enfin, je comprends pas. Je crois que ça veut dire que le thème est libre, qu'il n'y a pas de thème. Et ça me désarçonne. J'ai trop de liberté, là, je comprends pas. En plus, c'est super ironique, parce que moi, qui suis en constante recherche de liberté et qui écrit énormément, d'ailleurs, sur la liberté elle-même, eh ben là, on me donne une liberté d'écriture absolue. Eh ben, je sais plus quoi faire. Et bah là, actuellement, la carte blanche, ça rime avec page blanche et même avec nuit blanche. Ok, ouah, je suis trop contente. Alors, quelques jours ont passé depuis ma dernière mise à jour de ce petit journal de bord. Et j'étais au travail l'autre jour, tranquillement, je discutais avec une de mes collègues que j'adore. Et en fait, je lui ai parlé de cet appel à texte auquel je participais et qui me désarçonnait un petit peu parce qu'il n'y avait pas de thème et que j'étais un peu toute fébrile et qu'il fallait absolument que je trouve quelque chose à écrire parce que j'y tenais à cet appel à texte. Bref. Et il y a un moment où elle s'est arrêtée. Elle m'a regardée. Elle m'a dit « Attends, mais l'appel à texte dont tu me parles là, c'est « J'aimerais vous lire ». Je lui ai dit « Oui ». Elle me dit « Mais tu sais que c'est ma mère qui est à l'origine de cet appel à texte ?» Ben, je lui dis « Comment ça, ta mère ?» et en fait, cet appel à texte, il est porté par l'association Actemo Théâtre et par la ville de Strasbourg, entre autres partenaires. Et dans l'association Actemo Théâtre, c'est la maman de Nora, ma collègue, qui a lancé l'idée et même tout le projet de cet appel à texte. C'est incroyable, le monde est si petit. Enfin, Strasbourg, carrefour européen, mais avant tout Strasbourg village, où on est à une poignée de main de tout le monde, c'est fou. Update, on est début février, et j'ai rencontré Delphine Crubesi, la maman de ma collègue, qui donc est à l'origine de l'appel à texte « J'aimerais vous lire ». Et elle m'a confirmé qu'il n'y avait pas de thème imposé. Je vais donc devoir sortir une idée du chapeau. J'ai tellement de textes en réserve sur des thèmes et sous des formes diverses et variées. C'est trop dur de n'en choisir qu'un seul. Moi, je vais faire mijoter tout ça dans mon cerveau pour le moment. On verra plus tard ce que ça donne. Et en attendant, cher journal, je te laisse avec un petit bout de la conversation que j'ai eue avec Delphine, que j'ai rencontrée et qui est vraiment une femme incroyable. J'étais un peu intimidée au début, puis elle m'a très rapidement mise à l'aise et on a vraiment pu échanger sur des sujets très intéressants, j'ai pu apprendre à la connaître et je trouve son parcours tellement inspirant. J'espère que ça te fera le même effet qu'à moi.
Alors, donc, au départ, je suis comédienne et metteuse en scène. Ça c'est ma formation initiale, comme on dit, et c'est mon cœur de métier. J'aime particulièrement le théâtre, mettre en scène et jouer des textes.
Delphine m'avait parlé de son amour pour les textes contemporains, alors je voulais savoir quel était le texte qu'elle avait préféré jouer. Elle m'a répondu que ses textes préférés étaient toujours les derniers en date. Alors, elle m'a parlé de Paysage intérieur brut.
Et c'est un texte incroyable, l'histoire d'une femme qui s'appelle Bernadette, qui a vécu un épisode de harcèlement sur son lieu de travail. À la suite de ça, elle a un peu pété un câble et elle se retrouve recluse un peu volontaire dans sa ferme en Bretagne et avec son mari qui est éleveur bovin, ses enfants, son chien, voilà. Et elle essaye de s'en sortir en fait. Elle est régulièrement confrontée à ses souvenirs, à l'image de son patron qui l'a harcelée. D'abord, dans un premier temps, harcèlement sexuel et puis ensuite harcèlement moral qui lui a vraiment pourri la vie. Et elle n'arrive pas à se défaire de ça. Et donc, elle va petit à petit devenir parfois les autres. Donc, elle va devenir son mari, ses enfants, son chien, sa mère. Et elle va aller puiser chez les autres la force qui lui manque. Et elle va finir par affronter la chimère de son ancien patron dans un combat aussi homérique que ridicule. Parce okay. qu'un jour, elle hallucine son ancien patron dans son jardin. Alors qu'il n'est pas là, hein, c'est elle qui l'imagine. Et elle va, je vais être un peu crue, elle va lui rentrer dans le cul.
Littéralement.
Littéralement.
C'est génial.
C'est génial. Et elle va aller lui faire la peau de l'intérieur. Voilà. Okay. Et elle va s'en dépatouiller, s'en défaire et s'en débarrasser comme ça.
Vous me l'accorderez, c'est quand même une curieuse manière de se dépatouiller. Mais c'est justement ça que j'adore personnellement avec tout ce qui est art contemporain, culture contemporaine. C'est que les gens, ils n'ont pas peur du ridicule, quoi. C'est fou. Dans beaucoup d'œuvres contemporaines, je trouve qu'on part dans des choses mais qui deviennent tellement absurdes, j'irais même jusqu'à dire burlesques. Personnellement, moi, ça me fait hurler de rire. Et pouvoir rire d'un événement tragique, c'est ça qui fait que l'art est la plus sublime des créations humaines, je pense. Et c'est justement cette envie de promouvoir l'écriture contemporaine et tous les artistes contemporains qui a poussé Delphine et les autres membres du projet J'aimerais vous lire à lancer cet appel à texte.
L'envie aussi de rencontrer des talents d'ici. En fait, tout est parti d'une discussion qu'on avait avec deux amis comédiens et comédiennes et où on se disait, quelle est la vitrine en fait, pour les écritures d'aujourd'hui ici à Strasbourg et en Alsace. Et quelle est la visibilité pour les artistes qui écrivent? Et puis, on trouvait qu'il y avait peut-être quelque chose à faire là. On voulait ouvrir, pas être seulement sur les écritures théâtrales. Et moi, parallèlement, je travaille également sur la question des droits culturels. Et ça me donne envie d'inventer des nouveaux projets en m'appuyant sur cette notion-là, sur ces questions-là, en prenant les droits culturels un peu comme... un référentiel pour fabriquer des projets. Dans les droits culturels, il y a plein de notions. Là, je vais pas détailler parce que ce serait trop long, mais il y a la question de permettre à toutes et à tous de participer à la vie culturelle, de faire exister aussi et de profiter de la vie culturelle, mais également de leur propre culture, de s'épanouir. Dans la participation, qui n'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de participer à la vie culturelle. Et participer à la vie culturelle, ça peut être de plein de manières. Ça peut être en allant voir des spectacles, des expositions, des concerts, mais soi-même aussi en œuvrant, c'est-à-dire en écrivant, en mettant en scène, etc. Et donc, ces questions-là, ça venait croiser nos questions sur et la création contemporaine, les auteurs et les autrices ici. Quelle est leur vitrine. Donc voilà, on a pensé ce projet-là. On a commencé à en parler à la ville de Strasbourg, qui nous a dit qu'il allait avoir le projet Strasbourg, capitale mondiale du livre.
En 2024.
Mmh. Voilà. Et ils nous ont dit, ce que vous êtes en train de nous raconter, ça colle vraiment bien. Revenez vers nous, suivez l'élaboration de ce projet. Et donc, on a travaillé, on a réfléchi avec les potes. Et on est venu leur présenter ce projet-là un jour. Et ils nous ont dit, on vous programme dans le cadre de Strasbourg, capitale mondiale du livre. Vous ferez partie de la manifestation.
Mais alors, c'est quoi ce projet exactement? J'avais bien compris la base, qu'il y avait trois catégories auxquelles on pouvait candidater. La catégorie nouvelle, la catégorie théâtre et la catégorie poésie, à laquelle j'ai, moi, personnellement participé. Puis qu'il s'en suivait tout un processus de sélection avec des débats autour de ces textes. Mais une fois les dossiers de candidature envoyés dans un petit mail, qu'est-ce qu'on en fait de nos textes?
Mais ces textes, en fait, l'objectif, c'est qu'à un moment donné, certains de ces textes rencontrent un lectorat, un groupe de lecteurs et de lectrices qui va discuter avec les auteurs et les autrices, échanger autour de ces textes-là, sachant que les textes ne sont pas des textes qui sont finalisés. C'est ce qu'on appelle, c'est des textes en cours de travail.
Ce sont des ébauches?
Il y a des ébauches. Là, dans ce qu'on a reçu, par exemple, il y a quand même des ébauches hyper élaborées. On pourrait croire que c'est fini. Mais l'idée, c'est un auteur ou une autrice, avant de clôturer son texte, peut-être qu'il ou elle a besoin d'un moment d'échange. Et ce projet... c'est pour ça que je dis que c'est un processus. Ce projet, Il va aller, on espère, intéresser des auteurs et des autrices qui souhaitent ce moment d'échange comme la dernière étape avant de finaliser le texte. C'est aussi un peu sur le modèle de ce qui pouvait être le salon littéraire.
D'accord.
Au XVIe, au XVIIe siècle, il y avait des salons littéraires où il y avait des auteurs, bien plus souvent des hommes, mais il y avait aussi des femmes, qui venaient lire leurs textes devant un groupe de personnes.
Un comité de lecture,
un genre de comité de lecture. Et c'était l'occasion de mettre à l'épreuve le texte, en fait. Voilà. Alors là, nous, c'est un petit peu différent. Mais c'est ça l'idée, c'est ce texte-là qui va rencontrer ce comité de lecture, donc ces gens qui lisent, qui auront prêté un œil vraiment particulier, singulier, attentif à l'écriture, et qui vont faire des retours à l'auteur ou l'autrice. Et après, l'auteur ou l'autrice, il a la liberté absolue de prendre ses retours, d'en faire ce qu'il ou elle veut, vraiment, d'en tenir compte, de ne pas en tenir compte, de faire exactement le contraire de ce qu'on lui aura suggéré. Enfin, il n'y aura peut-être même pas de suggestions, il y aura peut-être juste des retours sensibles. Voilà. Et puis de finaliser son texte et ensuite de nous le retourner. Et normalement, nous, si tout va bien au niveau des recherches de financement, mais c'est bien parti, on devrait pouvoir éditer les textes à l'arrivée qu'on aura sélectionnés.
C'est ça le but de l'appel à texte, c'est une édition.
Bah, la finalisation de tout ça, ça se termine par une édition.
D'accord.
Mais quand je dis que c'est un processus, c'est que... par exemple, je l'ai vraiment dit aux gens qui lisent les textes en ce moment, j'expliquerai ce qu'ils font actuellement. On ne va pas juger des textes en disant « Ah oui, il est super, on le prend », comme si on était des éditeurs ou des éditrices, ou comme si on faisait un concours. Où là, on va s'attendre à ce que les textes soient hyper ficelés, hyper finalisés, etc. Cela dit, même avec des éditeurs et des éditrices, il y a toujours des allers-retours avant l'édition. Ouais. Il y a toujours un travail. Mais dans le cadre d'un concours, par exemple, on envoie des textes qui sont finalisés.
Ouais.
Voilà. Et ils sont jugés en tant que tels. Là, le regard qu'on va porter, il est différent. Un texte qui a des fragilités, mais qui a un potentiel, où on se dit... Ah, il y a quelque chose là-dedans. Bon, là, c'est peut-être un peu trop long, ou là, c'est peut-être ça mériterait d'être développé. Je donne des exemples à la noix, hein, mais on va peut-être le retenir, justement, à la fois pour son potentiel et à la fois pour les endroits où on se dit ah, peut-être que nous, on peut apporter quelque chose en tant que lecteur, lectrice à ce texte-là pour qu'il continue à grandir, quoi.
Un texte qui grandit. J'aime bien cette image. En tant qu'auteur ou autrice, on enfante d'un texte qui va ensuite grandir. Et au moment où on décide de le laisser voler de ses propres ailes et de l'exposer au grand public, il va prendre des dimensions qui nous dépassent et évoluer seul. On est début février, la clôture de J'aimerais vous lire est dans une dizaine de jours et j'ai toujours rien écrit de concret. Mais j'ai eu une idée cependant. En tant que personne créative, j'ai remarqué que j'avais des sortes de cycles au cours desquels je créais toujours autour d'un même thème. J'ai beaucoup écrit sur l'amour à une époque, beaucoup sur la mort à une autre, ou encore sur la solitude, sur l'amitié, etc. Et ces derniers temps, le thème général qui me tourne en tête, c'est la liberté. Pour vous dire, ma lecture du moment, c'est « La liberté d'être libre » de Hannah Arendt. Donc c'est un thème qui est des plus récurrents chez moi en ce moment, et c'est un thème que j'associe énormément à la politique aussi. Mais bref. J'associe beaucoup la liberté aux oiseaux, notamment grâce à une de mes musiques préférées au monde entier, qui s'appelle « Les oies sauvages » du rappeur Douskawa. C'est un rappeur strasbourgeois d'ailleurs. Encore une fois, la culture locale, wouhou ! Bref, dans ce texte, il disait notamment ceci. « Et peu importe l'apanage, les couleurs sombres de nos plumages, puisque la boue qui nous recouvre est venue des plus beaux rivages. » C'est une petite phrase que j'utilise comme un mantra, qui est écrite sur un petit bout de papier et que j'ai installé dans mon salon. C'est ce genre de phrase qui m'a touché droit dans le cœur la première fois où je l'ai entendue et qui me fait toujours un effet. D'ailleurs, là, c'est bon, l'inspiration revient. Puis, ça fait un moment que j'écris sur les oiseaux et sur la liberté et je pense que le recueil de poèmes que je compte écrire me servira d'une sorte de clôture pour mon cycle sur la liberté. Après, il sera temps de passer à autre chose. Alors, finissons-en. Mais c'est vrai que tout ça, c'est une histoire de cycle. J'ai regardé récemment sur YouTube un épisode d'Amuse-Bouche. C'est une série de vidéos dans laquelle apparaissent Redouane Bougueraba, Jimo, Ahmed Sparrow et Roman Fraissinet, des humoristes que j'adore. surtout Romane Frécinet d'ailleurs. Et dans cet épisode, l'invité, c'était Kian Kojandi, le mec de Bref, pour ceux qui n'avaient pas reconnu son nom. Et dans la discussion, Romane Frécinet disait qu'il avait eu une conversation avec Paul Mirabel, qui est un autre humoriste en pleine période de gloire, une étoile montante. Et il disait notamment, à propos de Paul, que, je cite, « S'il veut changer sur scène, il devra accepter un changement dans la vie. S'il pense que c'est seulement une remise en question artistique qu'il va devoir vivre, il se trompe. Il va devoir vivre une remise en question humaine, se mettre dans d'autres délires, accepter une introspection. Comme quoi, tout est lié. Et quand tout est lié, tout trouve son sens. » On est le 31 mars 2023 et ça fait quelque temps que je suis habitée par un sentiment incroyable. Cette semaine, j'ai rejoint Delphine à l'espace européen Gutenberg, rue des Juifs à Strasbourg, pour voir un peu comment se passaient les séances du comité de présélection. Tout d'abord, l'endroit était vraiment hyper surprenant. En passant devant dans la rue, ce qui m'est déjà arrivé des millions de fois étant donné que j'habite juste à côté, je ne m'étais jamais rendu compte du joyau que renfermait ce bâtiment. Quand on entre dans la cour intérieure où les vélos siègent en ombre, il faut prendre un petit escalier à gauche et après avoir passé un interphone, on arrive au pied d'un large escalier en colimaçon d'un style ancien rénové, un mélange de grandes marches en bois ciré et de hautes baies vitrées. Au deuxième étage, on trouve une grande salle parquetée avec au mur des fresques d'un autre temps. Laurine, la coordinatrice de l'espace européen Gutenberg, nous a expliqué que ces fresques avaient été réalisées par la famille Böcklin à la fin du XIVe siècle. Puis, une fois le style de ces fresques passé de mode, on les a recouverts d'enduit pour les cacher et repeindre par-dessus. Ce n'est qu'à la fin des années 80 qu'on a réalisé des travaux et qu'on a découvert ces fresques. Puis, l'espace européen Gutenberg s'est installé dans les locaux. Je vous parle beaucoup de l'espace européen Gutenberg, non pas par pur plaisir de prononcer ce nom compliqué à prononcer un maximum de fois, mais parce qu'il et elle sont partenaires de J'aimerais vous lire. Je laisse Laurine faire les présentations.
Alors nous, on valorise le savoir-faire de l'imprimerie des arts graphiques. Du coup, on est partie prenante de Capital Mondial du Livre, même dès maintenant. Et on a développé...
Qui aura lieu en 2024, du coup, c'est ça ?
Oui, mais il y a une préfiguration déjà dès fin 2022.
D'accord.
Donc, il y a déjà des projets qui rentrent dans ce cadre-là, comme J'aimerais vous lire, en fait.
Okay.
C'est déjà un projet Capital Mondial du Livre.
Et les bibliothèques idéales aussi ou...
Je crois, oui, ils font partie. Oui, oui, les bibliothèques idéales, ils ont le logo aussi. Et donc, on a développé dans ce cadre-là un container transformé en vitrine dans lequel on a mis une presse ancienne qui se balade dans Strasbourg.
J'adore les initiatives comme celle-ci. Personnellement, c'est le genre de projet culturel qui me rappelle que tout est possible dans le monde de la culture. J'ai ensuite rencontré quelques membres du comité de lecture de la catégorie théâtre et nous avons discuté. J'ai quitté les lieux avant qu'ils ne commencent leur débat. J'y suis retournée deux jours plus tard avec Manon Bulle, une amie qui m'est très chère, pour qu'elle m'aide à enregistrer des sons d'ambiance et surtout à interviewer Éric Gentet, auteur alsacien qui parraine l'aventure J'aimerais vous lire. Nous avons tous les trois eu une discussion très intéressante sur le processus d'écriture et sur son parcours d'écrivain qui semblait à l'origine parsemé d'embûches. Je vous laisse avec quelques extraits.
Je trouvais ça dingue parce que mon parcours, je vais le résumer en 3 secondes parce que sinon ça sent trop long, mais en fait je ne suis pas du tout destiné à l'écriture au départ dans ma vie puisque je suis un enfant, un adolescent dyslexique, profondément dyslexique, c'est-à-dire en fait à 19 ans je sais à peine lire et pas écrire, c'est pour ça que je fais de la radio,
d'accord,
j'ai pas besoin de lire ni d'écrire, au début en tout cas parce que je pousse des boutons.
Mais vous pouvez vous exprimer quand même.
Pas trop au début, mais j'ai appris à m'exprimer en faisant de la radio. Parce qu'on est dans les années 80, que c'était plus facile. Aujourd'hui, ça serait impossible. Mais là, c'était bénévole au tout début. Il suffisait de rentrer en disant « Bonjour, j'aimerais faire la radio. » Ben, bien sûr, installez-vous. Un jeune homme, parce que j'étais assez jeune. Et donc, comme je ne suis pas du tout destiné à l'écrit, et que j'ai mis 20 ans avant d'écrire, enfin, pour faire mon premier roman, j'ai mis 20 ans. Après, j'ai eu la chance de rencontrer l'éditrice qui est toujours mon éditrice aujourd'hui, qui s'appelle Héloïse Dormesson. Et puis finalement, j'en ai fait d'autres et puis c'est devenu ma vie. Mais justement parce que ce parcours est un peu atypique et que je ne suis pas du tout fait pour ça au début, les mots c'était plutôt des ennemis pour moi. Le fait qu'on me propose d'être parrain de cette opération autour de l'écrit, c'est pas comme une revanche, mais disons que je trouvais ça symbolique, quoi.
C'est quoi les critères qui font qu'un texte retient votre attention ?
Alors, il y en a plusieurs. Déjà, il faut que ça me touche. Il faut que quelque chose se passe en moi. Il faut que ça me bouscule même. Hein. Il faut qu'il y ait une émotion particulière. Pas forcément me reconnaître. Ça peut être très à l'opposé de moi. Mais que ça me bouscule. Que je me pose des questions, etc. Et puis, la forme, la langue, c'est aussi très important. C'est-à-dire, comment on articule les mots ? comment on a construit ses phrases, même ses paragraphes, comment les choses se sont amenées. Et quand je le vois, parce que je cherche à le voir, normalement, un lecteur, il ne voit rien. C'est un peu de la prestidigitation. Mais moi, je cherchais à le voir, donc je voyais des trucs. Et quand il y avait des maladresses, il y en avait beaucoup, des choses qui sont normales au début, évidemment. Bon, ça me gênait, donc j'avais tendance à passer vite à autre chose. Mais quand il y avait ce charme-là, c'est-à-dire qu'un texte, d'un seul coup, nous emmène ailleurs, nous touche particulièrement, alors j'allais plus loin et je finissais ma lecture. Puis j'en ai choisi 4 que j'ai forcément terminé. J'en ai terminé quelques autres, mais finalement, les 4 que j'ai choisis sont les 4 que je préfère, mais vraiment, quoi. Puis j'ai lu les textes souvent à haute voix. Il faut les gueuler un peu les textes comme ça.
Ah ouais.
Je ne les ai pas gueulés parce que j'étais obligé d'aller vite, ouais. Il y en avait beaucoup. Mais oui, certaines fois, ouais, je les lisais à voix haute parce que du coup, ouais, ça, on sent mieux le rythme, les mots qui sonnent. Moi, je sais pas, le fait d'avoir fait de la radio justement et d'avoir passé beaucoup de tubes assez rythmés même, parfois j'ai l'impression que quand j'écris, j'ai un rythme qui m'est propre.
Le fait de lire des textes à voix haute pour mieux en entendre le rythme m'a évoqué Émile Zola. Je me souviens que j'avais appris en terminale au lycée, il me semble, qu'il paraît qu'il avait une pièce dans sa maison qu'il appelait le gueuloir et qui était réservée à la lecture à voix haute de ce qu'il écrivait pour que tout sonne bien à l'oreille et que son écriture soit réglée comme une partition de musique. Comme quoi, la musique est partout et l'écriture peut suivre tout un processus créatif insoupçonné. On s'est demandé avec Manon comment Éric Gentet, en tant qu'écrivain, passait de l'idée abstraite au récit concret.
Il n'y a pas beaucoup d'idées qui maturent pendant longtemps. C'est, en fait, elle est là et elle arrive. Ouais. Et des fois, elle n'arrive pas, des fois, elle arrive. Il y a des jours où ça ne marche pas, il y a des jours où ça marche. Mais je dirais que plutôt, c'est de la... Ouais, je parlais de magie. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi... Il faut qu'il se passe un truc, quoi. Alors, évidemment, il y a beaucoup... Le travail, c'est le plus important. On cherche quelque chose. C'est comme un écrivain, pour moi, c'est un chercheur d'or. De temps en temps, on trouve un petit morceau d'or. Mais on a cherché longtemps avant de le trouver. Ben, c'est un peu ça aussi. C'est que de temps en temps, et là, quand on le trouve, on le sent. On sent qu'il y a un truc. Mais ce petit truc-là qu'on a senti et qui est un petit morceau d'or, il faut encore le travailler beaucoup après.
Et c'est quand il trouve l'harmonie entre tous les mots et toutes les idées que l'écrivain se considère satisfait de son travail. Il n'y a alors plus aucun doute. Et me voilà, 2 jours plus tard, des rêves pleins la tête, avec l'envie de dévorer le monde. Le fait de rencontrer des artistes et d'échanger avec elles et eux m'a donné un élan incroyable. Je me sens inspirée, prête à m'ancrer dans ce monde avec ma plume. Ces derniers jours m'ont donné un coup d'énergie et n'ont fait que renforcer mon désir de mener une vie qui me ressemble. Je le dis maintenant comme une promesse à une version ultérieure de moi-même. J'aurai une vie d'artiste, sinon rien. J'ai compris il y a quelques années qu'une telle vie était possible et je commence seulement à comprendre de quelle manière elle est possible. Et l'avenir que je suis en train de me dessiner, je le trouve magnifique. On est le 4 avril 2023. Je suis en train de faire le montage de mon interview avec Éric Gentet et certains de nos échanges me font pas mal réfléchir. Il dit qu'à partir du moment où on écrit, on prend déjà un risque, celui de sortir une partie de soi et de l'exposer au monde. On se met à nu en quelque sorte. Et c'est si vrai. À l'heure où j'attends des réponses de concours ou d'appels à texte, je ressens des sortes de minuscules montées d'angoisse face au fait qu'on ne puisse pas aimer ce que j'écris. Parce que ça devient personnel, j'ai l'impression. Je me pose la question, comment quelqu'un qui n'aime pas ce que j'écris peut m'aimer en tant que personne? Mes textes font partie intégrante de moi. Je pense que si tu ne m'aimes pas, tu peux pas aimer ce que j'écris. Et il en va de même pour les écrivains qu'on lit. Si on n'aime pas leur livre, il y a peu de chances qu'on aime la personne en elle-même. La phrase « je n'aime pas tel auteur ou telle autrice » prend alors une dimension bien plus personnelle. Et c'est ça le risque de l'artiste. C'est prendre le risque du rejet personnel. Et personnellement, mon choix est fait et le risque est pris. Mais ça va, je le vis bien. Ça y est, on est mi-avril 2023 et j'ai appris il y a quelques jours que mon texte n'avait pas été sélectionné par le comité de présélection. Et ben en fait, je me suis surprise par moi-même de voir à quel point je m'en fous. Je pense que j'ai commencé à intégrer le fait que l'échec fait partie de la réussite. Et comme depuis janvier, je participe à des concours et appels à texte en tout genre, et que jusqu'à maintenant, j'ai été sélectionnée pour un seul, je commence à m'habituer à l'échec. Et c'est super positif. Et même, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que j'ai réussi à me mettre dans un rythme d'écriture et une discipline de travail, cette discipline dont parlait Éric Gentet, qui me permettent de progresser. Chaque jour de congé que j'ai, chaque fois que je trouve un moment pour moi ou que je ne suis pas contrainte par le travail, j'écris, je me renseigne, je monte des plans fictifs en 3 actes pour arriver à mes fins, vivre de mon écriture. Et peu importe la forme, hein, que ce soit de la poésie, de l'écriture de romans, des jingles, des podcasts, du stand-up, qu'importe. Tant que je continue à m'épanouir dans ce milieu-là, c'est que je suis sur le bon chemin. Parce que c'est mon chemin. Je pense que c'est pour ça que le fait d'apprendre que mon recueil n'avait pas été retenu pour J'aimerais vous lire, ça m'a pas rendu triste. Je reste quand même dans l'aventure grâce à ce podcast. Alors à mon sens, bah, j'ai tout gagné. Vous avez écouté le premier épisode de Journal de bord et vins écrits, un podcast créé dans le cadre de l'appel à texte J'aimerais vous lire, porté et développé par la compagnie Actemo Théâtre. Cet événement est programmé dans le cadre de la manifestation Lire notre monde, Strasbourg, capitale mondiale du livre 2024. Il est soutenu par la ville de Strasbourg, la région Grand Est et la DRAC Grand Est, en partenariat avec l'espace européen Gutenberg, le lycée Gutenberg, la maison théâtre et les médiathèques de l'Eurométropole. À bientôt pour un prochain épisode.